RFI, 2h à Paris, 1h en temps universel.
Antoine Galen.
À la une, Donald Trump annonce des droits de douane de 25% sur les produits européens. Réaction de la Commission européenne qui annonce qu'elle réagira fermement et immédiatement. Dans ce journal également, le Chili plongé dans le noir pendant plus de 7 heures. La panne d'électricité la plus importante depuis 15 ans a eu de nombreuses conséquences, vous l'entendrez. En France, le Premier ministre François Bayrou veut militariser davantage les frontières pour lutter contre l'immigration illégale. Et puis, un peu moins d'un mois après la prise de Goma par le groupe M23 soutenu par le Rwanda, Guy Seni accueillait ce mercredi l'arrivée de la troisième étape du Tour du Rwanda. Vous avez les titres, bienvenue. L'annonce était redoutée par de nombreux dirigeants européens. Donald Trump a annoncé des droits de douane de 25% sur les produits européens. Et ce, un peu plus d'un mois après son retour au pouvoir, les droits de douane, l'un de ses principaux chevaux de bataille depuis qu'il a été réélu. Le nouveau président américain a également répété ses attaques à l'encontre de l'Union européenne. Anne Verdaguer.
25% de taxes pour les Européens comme pour le Canada et le Mexique. Pour les deux pays voisins, cela devrait finalement être effectif à compter du 2 avril. Mais surtout, les mots ne semblent pas assez forts contre le projet européen qui, selon le président américain, a été conçu contre les États-Unis dès le départ.
Les Européens ont vraiment profité de nous. Ils n'acceptent pas nos voitures ou nos produits agricoles et ils donnent toutes sortes de raisons pour cela alors que nous acceptons tout d'eux. On a un déficit de 300 milliards de dollars avec eux. Donc moi, j'aime les Européens, mais l'Europe a été conçue pour emmerder les États-Unis. C'est le but. Et ils y sont bien arrivés jusqu'à présent. Mais maintenant, je suis président.
À noter que ce chiffre de 300 milliards de dollars de déficit commercial américain vis-à-vis de l'Europe est contesté par Bruxelles, qui estime qu'il faut au bas mot le diviser par deux. L'Europe, qui pour Donald Trump devra aussi fournir des garanties de sécurité à l'Ukraine en cas de règlement du conflit avec la Russie. Les États-Unis se contenteront de s'assurer que tout se passe bien. Et enfin, a ajouté le président américain, l'Ukraine peut oublier une adhésion à l'OTAN.
La Commission européenne estime de son côté que l'UE a été une aubaine pour les États-Unis et qu'elle réagira fermement et immédiatement à de nouveaux droits de douane. Donald Trump a également indiqué que Kiev pouvait oublier une adhésion à l'OTAN et qu'il incombait à l'Europe de lui apporter des garanties de sécurité. Pour faire face à ces menaces, Emmanuel Macron s'exprimait ce mercredi sur sa visite à Washington avec les membres du Conseil européen. Le président français qui a également rencontré ce mercredi soir Friedrich Merz, celui qui devrait devenir le futur chancelier allemand. Sur le front, l'armée ukrainienne a revendiqué une contre-attaque réussie près de Pokrovsk, une ville à l'est du pays. Un peu plus loin, à Kostiantynivka, des attaques aériennes russes ont fait au moins 5 morts et 11 blessés.
RFI, la radio du monde.
C'est extrêmement rare au Chili. Une coupure de courant a affecté près de 95% de la population entre mardi et mercredi pendant plus de 7 heures. De quoi paralyser le métro de la capitale, perturber les réseaux téléphoniques ou encore bloquer les paiements par carte dans les commerces. On ne sait pas encore si la panne a provoqué des décès ni l'ampleur des pertes financières qu'elle a causées. Le Chili dispose pourtant d'un des meilleurs réseaux du continent, mais d'après Mathias Diaz, c'est comme si cette fois, tous les disjoncteurs du pays s'étaient déclenchés par erreur. Il dirige le département d'ingénierie électrique de l'Université de Santiago.
Une coupure d'électricité de grande ampleur s'est déjà arrivée en 2010-2011 après le grand tremblement de terre. Mais une panne généralisée, ce n'est pas quelque chose d'habituel ici. La coupure a été provoquée par un incident sur une ligne à haute tension de 500 000 volts. Cette ligne transportait une partie importante de l'électricité du pays et elle s'est retrouvée hors réseau, ce qui a provoqué une chute de 20 à 25% de la capacité électrique totale du pays. Ensuite, il y a eu un effet domino et les mécanismes de protection du réseau se sont déclenchés de manière inappropriée. C'est ce qui a abouti à la panne généralisée.
General el blackout que tuvimos.
Propos recueillis par Jessica Brumec de la rédaction en espagnol de RFI. Les autorités ont lancé une enquête administrative pour déterminer les causes exactes du dysfonctionnement. En France, le Premier ministre a réuni ce mercredi après-midi un conseil interministériel sur le contrôle de l'immigration. La réunion portait notamment sur les mesures d'éloignement des personnes ayant reçu une obligation de quitter le territoire. Parmi les priorités de François Bayrou, renforcer la lutte contre l'immigration illégale. Sa première mesure, militariser davantage les frontières du pays. On l'écoute.
Le recours à la force frontière qui a été créée par le gouvernement d'Elisabeth Borne et à titre expérimental a été déployé notamment à la frontière de l'Italie. Cette force sera généralisée à l'ensemble des frontières de l'Hexagone. Elle regroupe la police, la gendarmerie, les douanes et elle permet de faire appel à des réservistes et à la force sentinelle lorsqu'il le faut pour que nos frontières soient mieux surveillées.
Un nouveau pacte pour une industrie propre, c'est ce qu'a présenté la Commission européenne ce mercredi. Cette stratégie repose sur trois piliers. Poursuivre la décarbonation de l'industrie européenne, la construction des maillons manquants de la chaîne industrielle et pour la première fois, la préférence européenne pour les biens et l'énergie produits dans l'UE. Pour Neil Makarov, directeur de Strategic Perspective à un think tank européen, le pacte pour une industrie propre constitue un véritable changement de paradigme.
La transition écologique, elle apparaît aujourd'hui comme un élément stratégique, non seulement pour baisser nos émissions de gaz à effet de serre et répondre aux défis climatiques, mais surtout et avant tout aujourd'hui pour les Européens, comme un levier pour plus de sécurité énergétique, pour une question de souveraineté des Européens. Par exemple, au Portugal, tout le lithium qui est extrait est aujourd'hui envoyé en Chine pour être raffiné avant d'être réimporté sous forme de batterie en Europe. On pourrait très bien imaginer construire les maillons manquants dans cette chaîne de valeur et notamment les capacités de raffinage du lithium pour qu'il soit raffiné en Europe, puis être intégré dans les batteries en Europe. Et en faisant ça, en fait, on serait beaucoup moins vulnérable si à notre dépendance vis-à-vis de la Chine en particulier. Et c'est le cas dans un certain nombre de technologies clés, et comme par exemple les batteries, mais aussi l'éolien, ou les aimants permanents qui sont un des composants critiques pour la fabrication d'éoliennes proviennent à 100% aujourd'hui de la Chine. Et il y a un intérêt stratégique pour les Européens de produire en Europe ce dont on a besoin.
En Somalie, un rapport de l'ONU indique que près de 4,5 millions de personnes seront menacées par la faim d'ici le mois de juin en raison de la sécheresse. C'est 1 million de plus qu'aujourd'hui. La fin d'année 2024 a été marquée par une baisse de la production agricole en raison de pluies insuffisantes. Le rapport estime également que pendant l'année 2025, 1,7 million d'enfants de moins de 5 ans devraient souffrir de malnutrition aiguë. Un peu moins d'un mois après la prise de Goma par le groupe M23 soutenu par le Rwanda, et alors que l'insécurité règne encore dans plusieurs quartiers de la ville, sa jumelle rwandaise Gisenyi accueillait ce mercredi l'arrivée de la troisième étape du Tour du Rwanda. Dans une ambiance relativement apaisée, presque comme si de rien n'était. Thomas de Saint-Léger.
Depuis leur mirador, les gardes-côtes regardent passer la course. Toute proche, Goma paraît pourtant si loin et les coureurs comme Milan Doni n'ont rien senti de particulier.
Non, je vois rien de guerre ou des choses comme ça et ou non.
Et pourtant, dans une bien moindre mesure, à Gisenyi aussi, des bombes sont tombées le mois dernier. Théophile habite ici. Il vient voir la course pour profiter et oublier.
Il y a des gens qui sont morts, les autres sont blessés, même on a détruit quelques maisons. Mais aujourd'hui, pas de problème. Même ici à Gisenyi, il y a des Congolais qui traversent pour la fête des cyclistes.
Effectivement, même si sortir de leur ville reste dangereux, des cyclistes congolais sont là, plus discrets, moins nombreux que ces dernières années. Daniel est l'un d'eux.
Je suis venu regarder les champions, les professionnels, parce que je suis passionné du vélo.
Et parmi ces champions, des Rwandais avec qui Daniel avait l'habitude de s'entraîner. Entre eux, le contact est maintenu.
Nous, ce qui nous intéresse, c'est les sports. Donc, on parle seulement du sport. La politique, ça nous touche. Ça nous touche quand il y a la guerre, quand nos proches sont tués. Mais ça ne donne pas l'autorisation de prendre les autres comme nos ennemis.
Daniel dit aujourd'hui ne vouloir qu'une chose, la paix, pour pouvoir revivre et rouler. Thomas de Saint-Léger, Gisenyi, RFI.
L'île de la Réunion se barricade. L'archipel devrait être placé en alerte cyclonique rouge ce jeudi à cause de la tempête tropicale Garance qui menace ce département français de l'océan Indien. Cela impose un confinement de la population. Des rafales de plus de 150 km/h sont attendues, accompagnées de fortes pluies et d'une houle importante. RFI bientôt 2h10 à Paris, 1h10 en temps universel.